Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Il est 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 avec un Vincent Hervouet en pleine forme, avec Maître Golnadel, Louis de Ragnel d'Europe 1, Nathan Devers, philosophe. Un petit mot sur l'Italie, bien sûr, avec cette élection probable de Giorgia Meloni. On fait le point avec Jeanne Cancard et puis on pose la question de ce parti néo-fasciste, post-fasciste dont on entend beaucoup parler ici en France.
Sa photo fait la une des journaux aujourd'hui en Italie. Avec sa victoire aux élections législatives, Giorgia Meloni devrait devenir la première femme à présider le Conseil des ministres. Hier soir, tard dans la nuit au moment des résultats, c'est l'effusion de joie chez ses militants. Le parti post-fasciste dirigé par Giorgia Meloni est arrivé en tête du scrutin. À 2h30 du matin, la gagnante prend la parole, consciente de sa victoire, mais aussi de la forte abstention.
Je crois que la situation dans laquelle se trouvent l'Italie et l'Union européenne est une situation particulièrement complexe, qui nécessite donc la contribution de chacun. Et ce soir, je ne peux que regretter les faibles taux de participation.
Dans son discours, Giorgia Meloni cherche aussi à rassurer.
Nous serons appelés à gouverner ce pays et nous le ferons pour tous les Italiens, avec l'objectif d'unir ce peuple.
Une prise de parole qui a porté ses fruits chez certains électeurs inquiets.
C'était un résultat prévisible. Même si la coalition que je soutenais n'a pas gagné, je pense que nous devons être confiants, déjà parce que c'est une femme, et aussi parce que le discours qu'elle a prononcé après sa victoire était un discours équilibré.
Elle doit prouver qu'elle peut représenter tous les Italiens, ceux qui ont voté pour les partis de droite, mais surtout ceux qui ne l'ont pas fait. Si elle réussit, alors elle sera reconnue comme la chef. Sinon, ce sera une déception. Giorgia Meloni va désormais tenter de former son gouvernement et devrait rentrer en fonction dans les prochaines semaines.
Nathan Devers, ce mot post-fascisme, qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce que c'est un mot valise ? Qu'est-ce qui signifie aujourd'hui ?
Je pense qu'il ne veut pas dire grand-chose. Parce que post-fasciste, ça signifie, ça s'intéresse juste au concept, c'est une succession chronologique. Donc ce qui vient après le fascisme, ça peut être mille et une choses, ça peut être de l'antifascisme, pourquoi pas, ça peut être une succession, un héritage qui reste fasciste. C'est un concept qui est, je trouve, il y a des mots comme ça dans le discours médiatique qui sont faits pour créer des malentendus et pour créer des fausses controverses, des fausses polémiques où les uns vont dire une chose, les autres vont... Et ça va être très caricatural. Me semble en plus que dans le cas de Madame Meloni, c'était cette affaire dont on parlait tout à l'heure de la déclaration de 1996 sur Mussolini.
Sur Mussolini, où elle vantait les mérites de Mussolini.
Elle estimait que c'était un homme qui avait fait beaucoup de bien aux Italiens. Mais il y a une différence entre le programme politique de Madame Meloni et celui de Mussolini, c'est le conservatisme. Je pense que ce qui caractérise le plus la vision politique de Madame Meloni, c'est une sur tous les domaines, hein, que ce soit religieux, que ce soit migratoire, etc. C'est une vision ultra-conservatrice qui, à mon avis, justifierait plutôt davantage de parler de néo-nationalisme. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes référentiels que les référentiels de fascisme. Il y avait un article dans le Grand Continent, la revue Le Grand Continent, qui était très intéressant, qui remarquait d'ailleurs que la culture conservatrice en Italie, enfin la culture gouvernementale, est assez pauvre. Et que justement, ça fait vraiment un saut là dans l'inconnu, de ce point de vue-là, et qui n'est pas du registre du néo-fascisme.
Maître Golnadel.
On dit post-fasciste en France, notamment l'extrême gauche, parce qu'ils n'osent pas dire. S'ils pouvaient dire fasciste, ils diraient fasciste, ils ne se gênent pas, mais là, ça serait trop gros. Donc du coup, ils disent post-fasciste, ce qui ne veut plus rien dire, comme il vient très bien de l'être dit. Maintenant, pourquoi néo-nationaliste ? Je pense que c'est un parti nationaliste, ce qui n'est pas, en tous les cas dans mon esprit, un gros mot. Oui, c'est un parti nationaliste, oui, c'est un parti conservateur, et c'est aujourd'hui... La réaction en Europe, c'est avant tout, il faut le comprendre, c'est moins une victoire de la droite qu'une défaite de la gauche. Et une défaite sur tous les plans. C'est-à-dire non seulement sur le plan de l'immigrationnisme, non seulement sur le plan de la sécurité, mais également sur le plan sociétal. Quand Mme Meloni utilise le discours justement sur la famille... Ça n'est pas pour rien. Donc, dans une Europe qui est déboussolée, On voit bien que le nord est plutôt au sud. Voilà.
On va juste écouter Michel Onfray, qui était l'invité ce matin de CNews, sur cette notion de post-fascisme. Il tempère les propos de ceux qui s'alarment du retour du fascisme en Europe. On l'écoute et puis je vous passe la parole, Vincent Avouette et Louis Dragnel.
À chaque fois qu'on n'est pas pour cette Europe, on est un nazi. Alors évidemment qu'elle elle procède probablement du MSI fasciste, mais s'il faut faire la liste de tout ce dont procèdent nos hommes politiques, je rappelle que Mélenchon vient du trotskisme. Vous avez fort bien dit que le PC, c'est le pacte germano-soviétique, c'est quand même 2 ans de collaboration avec le nazisme, c'est quand même un antisémitisme forcené à cette époque-là. Et personne ne reproche à Fabien Roussel, et c'est tant mieux, le Parti communiste a changé. Le matin, la radio, la télévision, dans les médias, on nous explique que le fascisme est à nos portes, alors que il n'y a rien à craindre, c'est juste quelqu'un qui a dit on touche pas à l'Europe, si on touche pas à l'Europe, on touche à rien.
Vincent Herouette, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition-là ?
Oui, je suis 100% d'accord. Le truc qui me frappe le plus, c'est que le post-fascisme, c'est un mot qui a été inventé il y a déjà 30 ans en Italie, parce qu'il y a 30 ans que la droite s'est associée à une droite plus radicale, qui était à l'époque Alleanza Nazionale, le parti de Gianfranco Fini, qui était véritablement, lui, directement l'héritier du MSI italien, le parti né sur les décombres de l'Italie d'après-guerre. Donc, c'est un mot... C'est effectivement c'est une manière édulcorée de traiter l'adversaire de facho. En l'espèce, ce que ça veut dire pour les Italiens, ça veut dire qu'ils sont prêts à transgresser l'interdit moral qui pesait sur eux, que notamment la grande presse, mais aussi l'Europe, mais aussi les voisins comme la France, faisaient peser sur eux, et qu'ils ont décidé, face à un nombre de problèmes, de choisir une autre politique que celle qui avait été menée jusqu'à présent, notamment sur la question de l'immigration, notamment sur la question de l'insécurité, notamment aussi, c'est un pays qui, depuis 20 ans, les salaires ont perdu 3%. C'est-à-dire que les salaires n'ont pas cessé de baisser depuis 20 ans. C'est un pays où la facture d'électricité a été multipliée par 4 depuis 3 mois. C'est un pays qui a d'énormes problèmes de ce genre et une sorte de sentiment que la seule chose qu'on puisse encore faire, c'est essayer de préserver le peu qu'on a gardé. Et ça donne pas véritablement l'envie de chanter les chants fascistes le matin au réveil ou de passer le voisin, de lui infliger un petit lavement à l'huile de ricin.
On va juste poser la question de cette union des droites qui fonctionne en Italie. Est-ce qu'elle est envisageable en France ? Est-ce qu'il pourrait y avoir comme ça une alliance entre le RN, Reconquête et éventuellement une partie des Républicains ? Le point avec Gauthier Lebret du service politique de CNews et je vous passe la parole, Louis Dragnel. On l'écoute, Gauthier Lebret.
L'union des droites semble bien compliquée en France. Déjà, nous sommes dans un régime électoral totalement différent d'une autre. Évidemment, un régime parlementaire qui est habitué à faire des coalitions. Et d'ailleurs, si Giorgia Meloni a fait un score historique hier, c'est parce qu'elle a refusé d'entrer dans le gouvernement d'Union nationale de Mario Draghi et donc elle était seule dans l'opposition pendant un peu plus d'un an. Évidemment, Éric Zemmour rêve de cette union des droites. Vous le savez, ça a été l'un des thèmes de sa campagne présidentielle. Il a fait un communiqué hier pour se féliciter de la victoire de Giorgia Meloni. Il parle du deuxième succès pour l'Union des droites après la Suède. Il dit que le ciment est bel et bien la question identitaire. Malgré leur échec en 2018, Giorgia Meloni et son jeune parti n'ont rien lâché. Vous avez bien compris évidemment le parallèle que cherche à faire le leader de Reconquête. Comprenez que son parti n'est pas terminé, que c'est encore possible. Ce qui est sûr, c'est que Giorgia Meloni, idéologiquement, elle est plus proche d'Éric Zemmour que de Marine Le Pen. Elle est ultra-conservatrice sur les idées de société, opposée par exemple au mariage pour tous et à l'adoption par les couples de même sexe. Elle est libérale sur les idées économiques, bien loin de la fameuse réforme des retraites voulue un temps à 60 ans par Marine Le Pen. D'ailleurs, Le Point rapporte que Mélanie aurait confié sur Marine Le Pen il y a un an. Marine Le Pen est démago. Elle est de gauche sur le plan économique et progressiste sur le plan sociétal. Et d'ailleurs, la présidente du groupe RN à l'Assemblée a mis un peu de temps à réagir à la victoire de Giorgia Meloni. Elle ne l'a fait que ce matin, en mentionnant également Matteo Salvini, son véritable allié de la Ligue. Alors que ça a été un véritable revers pour lui hier, ces élections. Il a fait entre 6 et 8%. Il s'est véritablement effondré, mais c'est le véritable allié idéologique de Marine Le Pen en Italie. Alors si, on transpose ce qui se passe en Italie, ça voudrait dire qu'Éric Zemmour explose et que Marine Le Pen se casse la figure électoralement. On est vraiment très très loin de ce scénario à l'heure où on se parle, puisque Marine Le Pen, vous le savez, a 89 députés à l'Assemblée nationale, quand Reconquête n'en a aucun.
Merci Gauthier Lebret. Scénario inenvisageable en France, Louis de Ragnel, cette union des droites.
Écoutez, c'est un sujet dont on entend parler depuis 15-20 ans et toutes les tentatives qui ont été initiées ont toutes échoué. Je me souviens, il y a 10 ans même, Robert Ménard à Béziers avait essayé d'organiser une rencontre entre tout le monde. Il y a eu plein de tentatives de dîner, de déjeuner secret. À chaque fois, ça a toujours échoué. Et entre les chefs de tous ces partis de droite, c'est la haine absolue, quasiment depuis toujours. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion en France, je me souviens au moment de l'élection présidentielle, eh bien, les électeurs de droite, eux, sont pas du tout, enfin, font l'union des droites sans aucun problème et peuvent passer d'un vote de Marine Le Pen, puis un vote Les Républicains, en passant par éventuellement un vote pour Éric Zemmour. Donc, les électeurs de droite, eux, n'ont absolument pas toutes ces questions de cordon sanitaire, toutes ces notions ont déjà D'accord. complètement volé en éclats depuis de nombreuses années. Donc, la difficulté, en fait, aujourd'hui, ce sont les chefs qui ne veulent pas s'entendre. Et je me souviens, je termine simplement par ça.
Il y en a qui veulent réagir.
Je me souviens, il y a quelques années, il y avait un sondage qui avait été fait au sein des militants Les Républicains. Quelle est la personnalité politique préférée des militants LR? C'était Marion Maréchal. Alors là, c'était la douche froide en interne au sein des Républicains, puisque arrivaient ensuite tous les cadres des Républicains. Voilà. Donc c'est simplement pour vous expliquer à quel point les électeurs sont plus à l'aise que les cadres, en France.
Maître Golnadel, pourquoi vous réagissez?
Non, mais oui, parce que...
Qu'est-ce qui vous gêne?
Ce qui me gêne, c'est que la donne a changé. Je veux dire, d'abord... Certes, le système électoral français est différent du système italien, sauf que l'union des gauches existe. Mmh. Donc, sur le papier, l'union des droites pourrait, électoralement, largement aussi bien marcher. Ensuite, ce que j'ai entendu par Gauthier, c'est ça ?
Gauthier Lebret.
Par Gauthier. On se doute bien que Zemmour, c'est pas la même chose que Le Pen. Et Salvini, c'est pas la même chose que Meloni. C'est une union... deux partis tout à fait différents. Ça ne marchait pas en France il y a une dizaine d'années à cause de l'interdit. Il n'était pas question, il fallait signer quand on croisait Marine Le Pen. Ça n'est plus le cas. Donc ça n'est plus l'interdit, l'obstacle principal. L'obstacle principal maintenant, c'est que les Républicains sont petits, alors que le Rassemblement National, notamment, est très grand. Et non seulement il est grand... mais il n'est pas réputé pour se marier facilement. Il a une logique de parti assez personnelle. Sauf que ce qui peut changer quand même, ça n'invalide pas ce que Louis a dit, mais ce qui peut changer, c'est la situation. C'est le besoin. D'abord, c'est le désir ardent des Français qui sont légitimement affolés par la situation parce qu'on ne se rend pas compte de cette situation. Et sur le plan... migratoire et sur le plan sécuritaire. Donc, au regard de cette situation, ce qui a été vrai jusqu'à maintenant peut ne plus l'être. Le problème, c'est, je pense, c'est davantage encore les Républicains qui ont peur d'être complètement mangés dans la situation dans laquelle ils se trouvent maintenant.
Nathan Devers.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais il y a peut-être aussi deux autres éléments qu'on pourrait rajouter. Le premier, sur les images de cette coalition qu'on voit en Italie, il y a M. Berlusconi, qui a, si je ne dis pas d'erreur, 86 ans. Ou c'est-à-dire à peu près, à 4 ans près, j'ai vérifié, l'âge qu'aurait eu Jacques Chirac. Et vous voyez, il me semble que même s'il peut y avoir de la porosité du côté des électeurs, du côté des militants qui peuvent voter pour l'un ou pour l'autre, il y a une différence qui est très claire de la part des dirigeants. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez eu en France, des dirigeants comme Jacques Chirac, comme plus tard Nicolas Sarkozy, des dirigeants d'une droite qui estimaient qu'il y avait un rideau de fer, un mur même, en quelque sorte, absolument infranchissable. Je ne parle pas du tout début de Jacques Chirac, mais à partir du moment vraiment où il accède aux responsabilités nationales, où il prend cette décision-là, et vous avez en face quelqu'un comme Berlusconi, qui a eu une expérience politique en Italie qui a été désastreuse à bien des égards. On connaît son histoire. Et on pourrait rajouter une chose aussi, cette généalogie plus profonde, du fait, je le rappelle, c'est important, qu'en France, pendant le XXe siècle, il n'y a jamais eu de suffrage universel qui a voté pour le fascisme, ce qui n'est pas le cas en Italie. Et donc ça fait, je pense, des codes et une culture qui est très différente.
Allez, il est 18h30 quasiment, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.